Le 18-20 commence avec ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 17 janvier avec le journal de Marion Lourd. Bonsoir Marion.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel, c'est la Chine qui annonce qu'elle ne vendra pas de billets pour les Jeux Olympiques.
La Covid a encore frappé, pic de cas dans le pays à 3 semaines des compétitions. Seuls pourront venir quelques spectateurs invités et encore, il leur sera déconseillé de crier. Nous serons à Pékin dans un instant. Dans ce journal encore, à moins de 3 mois de la présidentielle, 10 000 euros d'amende pour Éric Zemmour, condamné pour provocation à la haine après des propos sur les mineurs isolé, le candidat d'extrême droite va faire appel. Ça va mieux sur le front sanitaire, hôpitaux et spécialistes croient voir le pic de la pandémie, les grands patrons aussi, vous verrez. Les profs, eux, ne sont pas tous rassurés, plusieurs organisations appellent à nouveau à la grève jeudi.
À 18h15, un jour dans le monde, et si justement, tiens, on traitait le Covid désormais comme un virus endémique et plus une pandémie, certains de nos voisins commencent à le faire en levant certaines restrictions. Ne rêvez pas, c'est pas la fin, mais on ira quand même voir ce que disent l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne ou Israël. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on s'interroge sur les parrainages des candidats à la présidentielle. Tous les 5 ans, c'est pareil, mais cette fois, les candidats sans maillage local, donc sans parrainage, représentent un fort pourcentage dans les sondages. Faut-il revoir tout le système? Est-ce qu'on peut imaginer un pré-vote de citoyens? Faut-il revenir sur l'anonymat? Vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un pic, c'est un cap infranchissable pour la Chine à 3 semaines des Jeux Olympiques.
Le nombre de cas de Covid dans le pays est à son plus haut depuis 2 ans. C'en est trop à 3 semaines des JO. Aujourd'hui, Pékin a donc tranché. Aucun billet ne sera vendu pour assister aux épreuves. Les seuls spectateurs y assisteront sur invitation. Correspondance sur place, Valentin Abeille.
L'annulation de la vente de tickets au grand public n'est pas vraiment une surprise au vu de la situation sanitaire en Chine ces derniers jours. Les autorités chinoises suivent avec attention la progression du variant Omicron qui s'est déclaré dans 5 villes et provinces chinoises. Et le virus a réussi l'impossible en pénétrant samedi la ville de Pékin qui devait être protégée à tout prix alors que la capitale doit accueillir les JO d'hiver dans moins de 3 semaines maintenant. Les organisateurs avaient d'ores et déjà acté l'absence du public étranger puisque les frontières chinoises sont hermétiquement enfermé depuis près de 2 ans maintenant. Mais la Chine compte toujours faire de ces Jeux Olympiques une fête populaire après l'édition de Tokyo qui s'est déroulée à huis clos l'été dernier. Surtout, cet événement doit servir de vitrine politique au régime communiste pour démontrer de l'efficacité de sa réponse sanitaire. Il n'a pas été précisé comment les personnes seront sélectionnées ni si elles doivent effectuer une quarantaine au préalable. Mais une chose est certaine, pour encourager les athlètes, il a été demandé au public d'applaudir plutôt que crier pour limiter la contagion du virus. Pékin, Valentin Abaye, France Inter.
Quand la Covid vient perturber les événements sportifs comme l'Open de tennis d'Australie avec l'affaire du numéro 1 mondial non vacciné Novak Djokovic, le Serbe est rentré chez lui, atterrissage à Belgrade ce midi après son expulsion d'Australie. À la suite du feuilleton qui a mené à son éviction, la marque Lacoste, l'un de ses sponsors, annonce, je cite, qu'elle va faire le point avec le champion. Justice et sport, encore avec cette condamnation cet après-midi. L'État devra verser 5000 euros à l'ancien patron du patinage français pour préjudice morale. Didier Gayagué avait dû quitter la tête de la fédération début 2020 à cause d'un scandale de violence sexuelle dans le patinage. Lui avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, d'assassins et de violeurs sur la chaîne CNews en septembre 2020. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour, est condamné à une amende de 10 000 euros pour provocation à la haine et injure raciale. Décision du tribunal correctionnel de Paris. Aujourd'hui, vous étiez à l'audience pour France Inter. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Comment expliquer cette décision?
Eh bien, le tribunal estime qu'Éric Zemmour a franchi les limites admissibles de la liberté d'expression. Selon les magistrats, ses propos outrageants visent les immigrés dans leur ensemble. Ils peuvent conduire le spectateur à éprouver un sentiment de défiance, voire de peur, et donc favoriser des passages à l'acte violent. Éric Zemmour n'est d'ailleurs pas le seul à être condamné. Le directeur de publication de CNews l'est aussi, 3 000 euros d'amende. Une décision saluée par l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Ari Halimi.
Elle est importante parce que derrière ce projet médiatique, il y a un projet politique. C'est un projet de haine. Il faut qu'il comprenne que... On ne laissera pas passer.
De son côté, Éric Zemmour dénonce sur Twitter une condamnation idéologique et stupide. À la sortie de la salle d'audience, son avocat, maître Olivier Pardo, regrette que son client soit condamné pour avoir visé les immigrés alors qu'il tenait des propos sur les migrants mineurs isolés.
Il s'agit d'un dévoiement. Je rappelle que les migrants ne sont ni une race ni une ethnie et que donc nous poursuivre pour provocation à la haine raciale n'avait pas de sens. Un jugement vient d'être rendu, mais la justice n'est pas encore passée.
L'affaire n'est en effet pas terminée. Éric Zemmour a déjà annoncé qu'il allait faire appel.
L'agence France Presse devrait déposer plainte aujourd'hui après l'agression samedi de deux de ses journalistes, deux journalistes reporters d'images et leurs agents de protection lors d'une manifestation d'opposants au pass vaccinal à Paris. Menace de mort, coup de matraque, l'un des gardes du corps a même reçu un coup de bouteille sur la tête. On en reparle dans le journal de 19h sur France Inter. Et puis dans le Tarn, les fouilles pourraient durer un mois. Une vaste campagne de recherche a démarré à Cagnac-les-Mines, près de là où vivait Delphine Jubillard, disparue depuis décembre 2020, près d'une ferme aussi qu'aurait évoqué son ex-compagnon lors d'une discussion avec un co-détenu. Cédric Jubillard est en détention provisoire, accusé d'homicide volontaire. Il continue de se dire innocent.
Un espoir donc dans l'épidémie de Covid.
Moins de contaminations quotidiennes, même si le niveau reste élevé. Le scénario du pire s'éloigne, disait ce matin le professeur Fontanet sur France Inter. Confirmation cet après-midi à Marseille, où le pic semble avoir été atteint, disent les dirigeants des hôpitaux publics. Bref, la vague serait tout doucement en train de passer. C'est aussi l'analyse des grands patrons du monde entier. En témoigne aujourd'hui une étude auprès de ces dirigeants d'entreprises par le cabinet PricewaterhouseCoopers. Delphine Simon, le risque Covid n'est plus, d'après eux, le risque majeur pour leur société.
Les patrons ont le moral au beau fixe. La pandémie, ils ont appris à la gérer. Elle ne les inquiète plus vraiment. Parmi les 4500 dirigeants interrogés, les trois quarts se montrent confiants sur la croissance cette année. En France, ils sont même 85% à faire preuve d'optimisme. Une première depuis que ce baromètre existe, explique Patrice Moreau, le président de PwC France et Maghreb.
Force est de constater qu'on s'est adapté. Il a fallu monter immédiatement en gamme ce qu'on appelle la transition numérique, c'est-à-dire tout ce qui fait notre quotidien, Internet, le télétravail. Et surtout, deux ans après, la machine est repartie de manière beaucoup plus forte.
Des dirigeants français plus inquiets que les autres à l'égard des risques géopolitiques et des pénuries de matières premières qui en découlent, vu la dépendance des grands groupes aux importations, mais ils placent en tête, eux aussi, le risque de cyberattaque, logique, vu le boom de la numérisation.
Imaginez l'application anti-Covid, qu'elle se fasse hacker par exemple, et que tout s'arrête. Bah, on ne sait plus, on n'arrive plus à tracer. Comme dans tout, il y a une sophistication croissante des attaques de cybersécurité, et donc les entreprises doivent investir toujours plus pour se prémunir.
Des patrons qui l'admettent, ils ont un gros retard sur les engagements pour le climat. Seuls 22% ont pris des mesures concrètes, essentiellement des grandes entreprises.
Reste à confirmer les signaux positifs concernant l'épidémie. Pour ça, il y a le masque. Le tribunal administratif de Paris avait invalidé son port en extérieur. Il revient par arrêté préfectoral aujourd'hui, mais obligatoire seulement dans les lieux les plus fréquentés. Difficile de s'y retrouver, c'est vrai, le masque mode d'emploi en région parisienne, c'est sur notre site franceinter.fr. Concernant l'école, la gestion de la pandémie dans les établissements scolaires continue de mécontenter directeurs et professeurs, d'où ce nouvel appel à une journée d'action jeudi prochain dans les écoles, collèges et lycées. Jeudi dernier, après une grève très suivie, le gouvernement avait beaucoup promis masque FFP2 pour les enseignants de maternelle, recrutement de contractuels. Bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir.
C'est insuffisant pour certains syndicats, FSU, CGT Éducation et Sud, qui veulent donc poursuivre le mouvement. Ils mobiliseront sans doute moins que la semaine dernière.
Oui, car seul le syndicat Sud appelle clairement à la grève ce jeudi. La CFDT, l'UNSA et le SNALC ne suivent pas le mouvement. Et la principale organisation dans le primaire et le secondaire, la FSU, laisse chacune de ses sections locales décider. Appel à la grève déjà lancé en Seine-Saint-Denis, aussi en Haute-Garonne pour le primaire. Ailleurs, il y aura plutôt des rassemblements à midi ou le soir devant les rectorats, en présence de parents d'élèves. La principale fédération, la FCPE, soutient les enseignants. Des professeurs vont aussi afficher des banderoles devant les écoles et sur les réseaux sociaux. La grève n'est donc qu'une forme de mobilisation parmi d'autres. Difficile de demander aux enseignants de renoncer de nouveau à une journée de salaire. Et puis une grève massive, c'est risquer de perdre une partie des parents. Une syndicaliste dit avoir reçu beaucoup de messages de soutien depuis la grève de jeudi. L'objectif est donc de maintenir la pression en attendant la prochaine grande mobilisation interprofessionnelle. Celle-là, elle aura lieu dans 10 jours.
Et contre le virus, il y a aussi désormais des traitements comme le Paxlovid, pilule anti-Covid signée Pfizer. Tout juste approuvé au Canada, on attend encore l'avis du régulateur européen. Mais le remède devrait être partiellement produit en France à compter du troisième trimestre de cette année. C'est l'usine béarnaise de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui fabriquera le principe actif. 40 recrutements sont d'ores et déjà annoncés. La France qui attire décidément les investisseurs, en tout cas le président de la République s'en félicite aujourd'hui. Emmanuel Macron annonce 21 nouveaux investissements étrangers pour un total de 4 milliards d'euros. L'occasion de vanter les grandes mesures du quinquennat à 83 jours de l'élection présidentielle, baisse des impôts sur les entreprises et réforme de l'assurance chômage, entre autres. Défendre le bilan économique de 5 années de pouvoir, donc, côté politique, c'est un peu plus compliqué. La majorité peine à se mettre en ordre de marche en vue du scrutin d'avril prochain. Tension notamment entre le chef de l'État et son ex-premier ministre, Édouard Philippe. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
L'ex-chef du gouvernement devait participer demain à une réunion avec les piliers de la maison commune de la majorité. Il ne viendra pas.
Et non, il a mieux à faire, Édouard Philippe. La maison commune, il en claque la porte. Il voulait faire sauter la fine cloison entre son parti Horizon et le mouvement de centre droit Agir. Réunir tout le monde dans une même pièce, un peu trop grande aux yeux d'Emmanuel Macron, qui a interdit les travaux. Le maire du Havre n'aura donc pas les moyens humains et financiers d'agir. Face à la candidature de Valérie Pécresse, je ne comprends pas très bien la stratégie de se départir de son flanc droit, réagit Édouard Philippe ce matin dans le journal L'Opinion. Je ne veux pas être ministre, je ne veux pas aller à l'Assemblée, je ne demande rien, mais je n'ai pas envie qu'on m'emmerde, puisque c'est un terme à la mode. Édouard Philippe se lâche et ajoute « Dans la discussion politique, je ne mets pas de sentiments. Quand c'est nécessaire, j'accepte le rapport de force. » Ça n'a jamais été aussi tendu entre les deux hommes. Édouard Philippe fera donc le service minimum dans cette campagne en se concentrant sur la suivante, celle des législatives. Il sera là, le rapport de force. Il a lancé 130 comités locaux ce week-end, une centaine d'autres dans 15 jours. Occuper le terrain avec ses troupes, trouver des candidats solides pour les imposer ensuite à la Macronie et peser sur le prochain quinquennat, si réélection il y a.
Maxence Lambrecq, service politique de France Inter, merci à vous.
Là, on n'est plus dans la métaphore, des maisons se fissurent vraiment en Charente.
À cause de la sécheresse de 2019, disent les habitants de 6 communes charentaises, Ruelle, Saint-Michel, Angoulême, Magnac-Lavalette, La Couronne, Linard et Fléac. Pour être indemnisés, les sinistrés réclament que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. Ils s'estiment oubliés par l'arrêté ministériel de septembre 2020. Pierre Marsat, le tribunal administratif de Poitiers, se penchait aujourd'hui sur le sujet.
Ce ne sont pas seulement des maisons qui ont été fissurées par la sécheresse, comme en 2016 à l'île des Pagnacs par exemple. En 2019, ce sont des glissements de terrain qui se sont produits dans plusieurs communes charentaises. À Magnac-Lavalette, 20 maisons ont été détériorées. Le maire Didier Joby.
Sur notre commune, on a des endroits très calcaires, avec des volumes d'argile, des poches d'argile qui sont plus ou moins importantes à certains endroits. Le calcaire doit assécher cette argile, qui fait qu'on a ces déformations qui apparaissent. On a des zones très argileuses, où les maisons n'ont pas bougé, et on a des zones très argileuses, plutôt des poches où les maisons ont vraiment bougé.
Sans arrêter de reconnaissance de la catastrophe naturelle, pas d'indemnisation possible par les compagnies d'assurance, mais en fait c'est un long processus sur plusieurs années qui débouche sur ces détériorations de maisons. Bernard Burgot de l'association des sinistrés des propriétés bâties en Charente.
Les dégâts qui se posent sur les maisons sont des dégâts qui sont vus au dernier moment. Quand les entreprises interviennent, on s'aperçoit que dessous les fondations, qui sont souvent dans le vide, et ben la maison a mis un certain temps à descendre jusqu'au moment où elle a cassé.
Sinistrés et maires des communes concernées demandent que les experts des compagnies d'assurance viennent voir sur le terrain l'étendue des dégâts avant la reconnaissance de catastrophes naturelles.
Pierre Marsat, France Bleu, La Rochelle, toujours en Charente, le cognac reprend des couleurs, les ventes de spiritueux bondissent plus 31% l'an dernier. Les clients américains et chinois ont repris leurs achats qui avaient ralenti avec la pandémie. Et puis elle était devenue une institution pour les spectateurs de Canal+, notamment. Lucienne Moreau, 88 ans, nous a quitté. Son sens de l'autodérision avait fait de cette comédienne aux boucles grises une star de Groland, puis du petit journal de Yann Barthès.
Comme tous les jours à 20h30, on retrouve Lucienne pour sa chronique littéraire. Lucienne a lu que l'on retrouve dans les loges. Ça va, Lucienne ?
Attends, je vais te mettre la misère, toi, espèce de bâtard.
Lucienne avait même participé à Fort Boyard à l'âge de 82 ans et on se souhaite de vieillir tout pareil, Fabienne.
Eh ben, écoutez, comme vous dites, ouais. Enfin, faut voir, en fait.
Vous voulez pas faire Fort Boyard?
Non, alors vraiment pas. Mais on les embrasse quand même, hein. Notez bien, on sait jamais, mais vraiment non. Vraiment non. Je déteste les bêtes. Marion, merci beaucoup. À tout de suite dans Un jour dans le monde. Vous nous parlerez notamment d'un loto très particulier. Ça se passe en Argentine. Ce soir, nous allons voir comment certains de nos voisins ont levé beaucoup de restrictions Covid. Ils parlent même d'un virus endémique et plus de pandémie. Ne vous réjouissez quand même pas trop vite. Ils n'ont pas tout ouvert pour autant, mais c'est intéressant d'aller voir à quoi ça ressemble. Et puis, le téléphone Stephenson, je vous le remets dans l'oreille. C'est à 19h20. On parle ensemble des parrainages, les fameux 500 parrainages que certains candidats peinent à recueillir. On le comprend, la démocratie a changé. Les candidats qui poussent dans les sondages ne sont pas forcément ceux qui ont le maillage local nécessaire. Alors est-ce qu'on réforme ce système? Est-ce qu'on demande des parrainages citoyens? Est-ce qu'il faut revenir à l'anonymat? Tout cela avec vos questions au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Encore du gris demain, Élodie.
Oui, bonsoir à tous. En effet, du nord-ouest vers le centre Val-de-Loire et le Lyonnais, la journée sera souvent bien encombrée avec des brouillards le matin. Quelques rayons de soleil tenteront leur chance, mais ils resteront bien timides. On aura le même programme sur le sud-ouest. Du nord de la Seine vers le bassin parisien et le nord-est, la nuage bas et brouillard parfois givrant au menu. De bons moments de soleil tout de même pour l'après-midi. Et puis plus au sud, le soleil sera là dès le matin avec quelques nuages bas qui circuleront tout de même vers les côtes varoises ou vers le sud de la Corse.
Et des températures en baisse.
Quelques degrés et de moins, en effet. Alors, il faudra composer avec les gelées le matin et puis l'après-midi. 3 petits degrés à Lyon, à Montauban, 5 à Nancy, Dinard, Angers, Bordeaux, 7 à Brest ou à Paris. On ira quand même jusqu'à 11 à 14 en Méditerranée.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure, après 19h.